Chapitre 45. Par son bec écarlate et bariolé, le petit oiseau t'a chanté. Sur le siège tabère il a pleuré, et sur la plaine funèbre tu t'es avancé. Lamentation pour l'étau 2. Le tintement des anneaux d'eau dans la chevelure d'une femme éveilla l'étau. Son regard se porta vers l'entrée de sa cellule, et il découvrit Sabiha. Elle était assise, immobile, et dans la semi-conscience de l'épice, il la vit dessinée telle que la vision la lui avait révélée. Elle avait passé de 2 ans l'âge auquel une fille frémène devait trouver époux ou fiancé. Donc sa famille la préservait pour quelque chose, ou quelqu'un. Elle était nubile, c'était évident. Ses yeux encore envahis par la vision lui découvraient une créature venue droit du lointain passé terranique de la race humaine. Les cheveux noirs, la peau claire, des orbites profondes qui donnaient un reflet vert à ses yeux bleus d'Ibad. Son nez était petit et sa bouche large sur son menton ferme. Elle était la preuve vivante que le plan des Bene Gesserit était connu ou tout au moins soupçonné ici, dans Jakurutu. Ainsi, elles espéraient ressusciter l'impérialisme pharaonique à travers lui. Et pourquoi les sœurs avaient-elles formé le projet de lui faire épouser sa sœur? Sabiha, très certainement, ne pourrait empêcher cela. Il n'en restait pas moins que ceux qui le détenaient avaient connaissance de ce plan. Comment? Il n'avait pu partager sa vision. Il n'avait pu le suivre là où la vie était une membrane qui se déplaçait dans d'autres dimensions. Dans la subjectivité circulaire et réfléchie des visions qui révélaient que Sabiha était à lui, et à lui seul. Une fois encore, les anneaux d'eau tintèrent et le son réveilla ses visions. Il savait où il avait été et ce qu'il avait appris. Rien ne pourrait l'effacer. Non, il n'était pas dans un palanquin, emporté par un grand faiseur au rythme des chansons des voyageurs et du tintinabulement des anneaux dans les cheveux des femmes. Non, il était bien là, dans une cellule de Jakurutu. Embarqué pour le plus dangereux des voyages, emporté loin du monde réel des sens pour y revenir. Le Al-Asuna wal-Jamas. Que faisait Sabiha dans le tintement de ses anneaux? Ah oui. Elle préparait encore un peu de cette potion qui était censée le retenir prisonnier, de brouets chargés d'essence d'épices qui le maintenaient à demi hors de l'univers véritable, et qu'il y maintiendrait encore jusqu'à ce qu'il meure ou que le plan de sa grand-mère réussisse. Chaque fois qu'il croyait avoir gagné, il le renvoyait. Dame Jessica avait raison, bien sûr. Vieille sorcière. Aussi longtemps qu'il n'aurait pas ordonné les informations qu'elle contenait, aussi longtemps qu'il ne pourrait les évoquer à sa guise, les vies mémoires qui étaient en lui et dont il se souvenait totalement ne seraient d'aucune utilité. Elles étaient faites de la matière brute de l'anarchie. Toutes, ou même une seule de ses vies, auraient pu triompher de lui, le submerger. L'épice et sa situation particulière, ici, à Jakurutu, avaient représenté un pari désespéré. À présent, Gurney attend ce signe que je refuse de lui donner. Jusqu'où ira sa patience? Il regarda Sabiha. Elle avait rejeté son capuchon et les tatouages tribaux étaient visibles sur ses tempes. Tout d'abord, il ne les reconnut pas, puis il se souvint de l'endroit où il se trouvait. Oui, Jakurutu vivait encore. Il ne savait pas s'il devait éprouver de la haine ou de la reconnaissance pour sa grand-mère. Elle voulait qu'il ait des instincts au niveau de la conscience, mais les instincts n'étaient que des souvenirs de l'espèce permettant d'affronter les crises. Ses souvenirs directs des vies antérieures lui en apprenaient bien plus. Il les avait ordonnés maintenant, et il comprenait le danger qu'il y avait à le révéler à Gurney. Impossible de cacher la révélation à Namri. Et Namri était un autre problème. Sabiha pénétra dans la cellule, tenant une coupe. Il admira les couleurs d'arc-en-ciel que la lumière du dehors faisait naître sur le pourtour de sa chevelure. Doucement, elle lui souleva la tête et commença à le nourrir. Alors seulement, il prit la mesure de sa faiblesse. Il se soumit docilement tandis que son esprit vagabondait. Il se souvint de la rencontre avec Namri et Gurney. Il le croyait. Namri plus que Gurney, mais Gurney lui-même ne pouvait nier ce que ses sens lui avaient déjà appris sur l'état de cette planète. Avec le revers de sa robe, Sabiha lui essuya la bouche. « Ah, Sabiha, » pensa-t-il, se rappelant cette autre vision qui emplissait son cœur de chagrin. « Bien des nuits j'ai rêvé auprès de l'eau libre, écoutant les vents souffler au-dessus de moi. Bien des nuits ma chair est demeurée dans l'antre du serpent, et j'ai rêvé de Sabiha dans la chaleur de l'été. Je l'ai vue empiler les pains d'épices cuits sur des feuilles de plastacier rougies. J'ai vu l'eau limpide du Kanat, si douce et si brillante, mais une tempête se déchaînait dans mon cœur. Elle boit du café et elle mange. Ses dents brillent dans la pénombre. Elle met mes anneaux d'eau dans ses cheveux. Le parfum ambré de ses seins pénètre mes sens. Elle me tourmente et m'oppresse par son existence. » La pression de ses multimémoires fit éclater le globe de temps gelé auquel il avait tenté de résister. Il perçut les corps enchevêtrés, les bruits du sexe, les rythmes inscrits dans chaque impression sensorielle, lèvres, souffle, haleine humide, langue. Quelque part dans sa vision, des formes en hélice tournaient, noires comme le charbon, et il perçut leurs pulsations régulières en lui-même. Une voix implorait au centre de son crâne, « Je vous en prie, je vous en prie. » Il y eut une turgescence d'adulte venant de ses reins. Sa bouche s'ouvrit, mordit à l'ultime rambarde de l'extase. Un soupir, la houle attardée de la douceur, l'oubli. Oh, comme il serait doux d'en passer par là. Sabiha, souffla-t-il. Oh, ma Sabiha. Lorsqu'il fut évident qu'il était retombé dans une transe profonde, Sabiha reprit la coupe et se retira. Elle s'arrêta sur le seuil et dit à Namri, « Il m'a encore appelé. »
« Alors retourne auprès de lui. Il faut que je trouve Alec et que nous discutions de cela. »
Sabiha posa la coupe et revint vers l'étau. Elle s'assit près de lui et observa son visage dans la pénombre. Il ouvrit alors les yeux, tendit la main et effleura la joue. Puis il lui parla, lui raconta la vision où il venait de la retrouver. Comme il parlait, elle mit une main sur la sienne. Il était si doux. Si... Elle s'effondra sur la couche, soutenue par la main de l'étau, inconsciente. L'étau se redressa, découvrant le poids énorme de sa faiblesse. Les visions de l'épice avaient absorbé ses forces. Il fit appel aux dernières traces d'énergie qui subsistaient dans ses cellules et parvint à quitter sa couche sans déranger Sabiha. Il devait partir, mais il savait qu'il ne pourrait aller très loin. Lentement, il scella son distille, enfila sa robe et s'engagea dans le passage. Il ne fit que de rares rencontres qu'il ignorèrent. Bien sûr, on le reconnaissait, mais la garde de l'étau ne leur incombait pas. On pensait que Namri et Alec savaient ce qu'ils faisaient et que Sabiha, de toute façon, ne devait pas être très loin. Il découvrit enfin le passage latéral qu'il cherchait et s'y engagea sans hésitation. Sabiha dormit paisiblement jusqu'à ce que Alec l'éveille. Elle s'assit en se frottant les yeux, vit la couche vide, son oncle debout derrière Alec, la colère sur leur visage. Namri répondit à sa question muette.
« Oui, il est parti. »«
Comment l'as-tu laissé fuir ?» explosa Alec. « Comment cela est-il possible ?»«
On l'a vu se diriger vers la sortie inférieure, »
dit Namri d'une voix étrangement calme. Sabiha se faisait toute petite devant eux, essayant de se souvenir.
« Comment ?» répéta Alec.
« Je ne sais pas. Je ne sais pas. »«
Il fait nuit et il est affaibli, » dit Namri. « Il n'ira pas loin. »
Alec se tourna vers lui brusquement.
« Tu veux qu'il meure ?»«
Ce ne serait pas pour me déplaire. »
Alec, sans répondre, s'adressa de nouveau à Sabiha.
« Dis-moi ce qui est arrivé. »
« Il m'a touché la joue. Il parlait de sa vision, où nous étions ensemble, lui et moi. »
Elle regarda la couche vide.
« Il m'a fait dormir. » Il s'est servi de quelques tours magiques.
Est-ce qu'il ne pourrait pas se cacher quelque part dans le siège ?
Demanda Alec à Namri.
Non, nulle part sans être vu, sans qu'on le retrouve. Il cherchait une sortie. Il est dans le désert à présent.
De la magie,
murmura Sabiha.
Non, ce n'est pas de la magie, dit Namri. Il t'a hypnotisé. Il y est presque parvenu avec moi, tu ne t'en souviens pas? Il disait que j'étais son ami.
Il est très faible, fit Alec.
Son corps seul est faible, mais il n'ira pas loin. J'ai neutralisé les pompes à talons de son distil. Sans eau, il mourra si nous ne le retrouvons pas.
Alec faillit le frapper, mais il se maîtrisa. Jessica l'avait prévenu que Namri serait peut-être obligé de tuer l'enfant.
Dieux inférieurs, dans quelle situation était-il? Les Atréides contre les Atréides.
Est-il possible qu'il soit encore dans la transe d'épices? Demanda-t-il.
Quelle différence cela fait-il? S'il nous échappe, il mourra.
Nous commencerons les recherches à la première lueur du jour. Avait-il un frame kit?
Il y en a toujours quelques-uns près des sceaux. Il n'est pas assez bête pour ne pas en avoir pris un. Il ne m'a jamais fait l'impression d'être bête.
Il faut envoyer un message à nos amis, dit Alec. Il faut leur dire ce qui est arrivé.
Pas de message cette nuit. Une tempête approche. Les tribus la repèrent depuis 3 jours. Elle devrait être sur nous vers minuit. Les communications sont déjà coupées. Les satellites ont isolé ce secteur depuis 2 heures.
Alec eut un soupir profond. Si la tempête de sable s'abattait sur l'enfant, il était irrémédiablement condamné. Le vent dévorerait sa chair et réduirait ses os en esquilles, en poussière. La mort simulée deviendrait bien réelle. Rageusement, il frappa sa paume de son poing. La tempête les piégeait dans le siège. Il ne pouvait même pas monter une expédition de recherche. Et les parasites de la tempête isolaient déjà le siège du réseau des communications.
Un distrance, dit-il soudain, pensant qu'il pouvait imprimer un message sur le cri d'une chauve-souris et lui faire porter à destination le signal d'alerte.
Mais Namri secoua la tête.
Même les chauves-souris reculent devant la tempête. Allons, elles sont plus sensibles que nous. Elles resteront terrées dans les falaises jusqu'à ce que le vent tombe. Il vaut mieux attendre que la liaison soit rétablie avec les satellites. Après, nous aurons le temps de retrouver ses restes.
S'il a un frame kit, il se cachera dans le sable, dit Sabiha.
Jurant sourdement, Alex se détourna brusquement et partit vers l'intérieur du siège.